talmudique. Le judaïsme, dans son aspect anthropologique, repose sur quelques piliers qui trouvent différentes expressions selon les interprétations et selon les milieux. L'un de ces piliers est celui de la mémoire. Les textes fondateurs répètent à l'envi « l'humain est invité à se souvenir ». Tout d'abord des généalogies, « toldot » en hébreu, puis des événements du monde, réels ou mythologiques, la création, la libération d'Égypte, la conquête de Canaan, les juges, les rois et les prophètes, la destruction du temple, l'exil, le retour par exemple. L'impératif de se souvenir est ressenti comme un impératif pour tout un peuple. L'écho s'en entend partout, mais il va crescendo dans le Deutéronome et chez les prophètes, écrit Yosef Chaim Yerushalmi. Souviens-toi des jours d'autrefois, interroge ton père et il te le déclarera, tes anciens et ils te le diront. Rappelle-toi ces choses, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur, tu ne m'oublieras pas. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek, souviens-toi de ce qu'avait projeté Balak, roi de Moab. Et cette formule répétée inlassablement, souviens-toi que vous étiez esclave en Égypte. Cet impératif de se souvenir est corollaire d'un second impératif, celui d'écrire des livres, d'abord chronique royale, puis avec le temps, l'obligation, selon le Talmud, pour chaque homme et chaque femme d'écrire un livre, son livre. Quel qu'en soit le contenu, commentaires bibliques, philosophiques, romans, poésie, récits, histoire collective ou histoire individuelle, ces livres racontent la présence de chacun dans l'histoire qui ainsi se construit non pas par les grandes fresques, mais dans les petites histoires. Ami Flammer, bonjour.
Bonjour.
Ami Flammer, ces petites histoires, c'est ce que vous nous proposez dans ce très beau livre intitulé « Apprendre à vivre sous l'eau » et sous-titré « Mémoire de violon » paru en 2016 chez Christian Bourgois éditeur, livre dont la force réside justement dans ce tissage entre la grande histoire des nations et l'histoire à hauteur d'homme, offrant un temps personnel libéré du temps commun, selon une expression de Lévinas, une histoire qui, par sa dimension d'intériorité subjective, résiste à l'effacement des visages, à l'effacement des petits gestes de tous les jours, ces petits gestes qui font une vie et qui seuls donnent une véritable saveur et une réalité concrète à ce qu'on appelle l'histoire. Et ma question s'adresse ici aux violonistes, aux professeurs de violon au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, aux dramaturges et aux solistes que vous êtes. Tout se passe comme si chacun, dans son histoire personnelle, était le soliste d'une partition dont l'orchestre représenterait l'histoire générale, une façon d'imaginer la vie comme un concerto. Qu'est-ce qui a poussé le violoniste à troquer momentanément l'archer pour la plume et à écrire ce livre, un récit entre l'histoire singulière, la vôtre et celle de votre famille, avec une place importante accordée à votre mère et à votre père aussi, à vos maîtres et à vos élèves, et à l'instrument lui-même comme objet et à la politique. Ami Flammer.
D'abord, merci beaucoup, ce chapeau très, très touchant. Déjà, je réagis au mot concerto, puis après on verra, parce que vous, je sais pas si vous savez, concerto, ça vient de concertar et dialoguer, concertation. Donc, c'est un dialogue permanent. Le concerto, c'est un dialogue entre le soliste et l'orchestre. Donc, on est exactement dans ce que vous avez dit, même dans l'étymologie même du mot. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire? Curieusement, je pensais pas écrire un bouquet sur moi du tout. C'est-à-dire, ce qui m'a poussé à écrire, c'est de, disons, on va dire, des petits débats dans la famille un peu compliqués sur d'où on vient, sur qu'est-ce que c'est toute cette famille, tout ce parcours. Et je me suis rappelé que ma mère avait écrit un livre, il y a déjà fort longtemps, elle est décédée malheureusement maintenant, sur sa vie elle-même, sur sa déportation, sur la guerre et tout ça. Et je me suis dit, tiens, finalement, ce bouquet, il est pas nul quand même. Je savais pas à l'époque si elle l'écrivait pour nous, ou pour le publier. Mais sûrement, elle devait, la connaissant, j'allais dire, elle devait avoir envie de le publier. Je me suis dit, bon, maintenant je connais un peu plus de monde qu'avant, je vais le proposer. Je suis allé voir deux éditeurs, et un m'a répondu, ah, c'est intéressant, mais il faudrait aussi écrire la suite. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas de suite, elle est décédée, ma mère. Non, non, la suite, c'est vous. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et puis finalement, bon, je suis tombé, et j'en suis très heureux chez Dominique Bourgois qui a accepté le bouquin et le titre surtout, j'allais dire. Et voilà, mais c'était au départ, c'était parler de ma mère. Donc, c'était même publié le livre de ma mère. Donc voilà, je me suis dit, tiens, on va raconter un peu tout ça. Et alors, vous dites troquer l'archer pour la plume, c'est vraiment ça, parce qu'en plus, moi, évidemment, je suis complètement nul en tout ce qui est technologie et tout ce qui est modernité, de ce point de vue-là, pas esthétiquement. Esthétiquement, je me crois assez moderne, mais, par exemple, donc, il était absolument pas question ni de taper à la machine, ni encore moins de taper sur un ordinateur. Donc, j'ai voulu écrire au crayon, et là, je me suis rendu compte que le geste de l'écriture était totalement contradictoire avec le geste de l'archer. Donc, au bout de 4 lignes, 5 lignes, j'avais mal, partout, et j'ai essayé, après, des stylos, comme on est ça, il y en a archer pour écrire, quoi. Enfin, pour jouer, je veux dire. Et puis, j'ai trouvé que finalement, les seuls qui étaient bons, c'était les vieux Bic jaunes, parce qu'ils sont tout légers, qu'il faut à peine appuyer, que ça faisait pas du tout mal. Mais j'ai vraiment essayé des dizaines de stylos, comme on essaye un archer, vous le trouvez. Et puis là, j'ai écrit, je crois, au fil un peu de la plume, comme on dit, et c'était très étonnant, parce que, je sais pas comment vous dire, mais vous devez connaître cette expérience, c'est-à-dire que j'avais l'impression presque que c'était le crayon qui écrivait, quoi. C'est-à-dire que, en écrivant, la mémoire revenait. Et des choses, mais vraiment, c'est pas du tout un mot de mythologie bête d'interview. C'est que même les noms des premiers professeurs de maternelle, c'est comme s'ils étaient écrits sur le mur et qu'il n'y avait plus qu'à les recopier. Mais ils venaient parce que j'écrivais, alors que des fois, je n'avais pas conscience que je m'en souvenais. Il suffisait d'écrire pour que le souvenir revienne. Et bon, ça a été évidemment une expérience très très forte. Et c'est d'autant plus fort que, évidemment, quand on est tout le temps avec le violon, toute la journée, presque, c'est pas la même chose, et à la fois c'est la même chose. Donc c'est-à-dire que, évidemment, on joue du violon, on travaille son violon, et on travaille avec une attention. Moi, je dis toujours à mes étudiants, j'ai beaucoup plus le trac à la maison qu'en concert, parce qu'en concert, personne n'entend rien, tandis qu'à la maison, je suis là. Et moi, j'entends bien. Quand c'est faux et quand c'est pas bien ou quand l'intention n'est pas bonne, ça me gêne vraiment, quoi. Donc j'ai un trac fou quand je travaille. Et donc tout ça était une relation. Et puis alors ce que vous dites, ce qui est merveilleux, vous dites le souvenir. Et évidemment, c'est énorme. C'était ce souvenir, et ça me rejoint tout de suite à l'interprétation, parce que, bon, on peut le dire à l'avance, on va passer tout à l'heure quelque chose par Yehudi Menuhin, et je me souviens bien que quand je l'ai connu, bon, je l'ai d'abord connu comme élève, hein, parce qu'il est venu faire des masterclass à Paris, au conservatoire, et qu'il y a eu comme ça un truc, et en même temps, il me faisait extrêmement peur, mais on en parlera tout à l'heure quand on l'écoutera. Mais surtout, je me souviens après de débats et de discussions entre nous. Bon, vous savez, tout le monde le sait, qu'il a eu pas mal de problèmes, surtout toute la deuxième partie de sa vie, que c'est difficile pour lui. Je pense même que c'est un des hommes qui a le plus souffert. Mais c'était juste pour raconter ce petit dialogue qui m'a beaucoup frappé. Il me disait tout le temps, il l'a dit dans plein d'interviews aussi, « Moi, quand je joue, je voudrais que tout le monde oublie tout. » D'ailleurs, il y a cette fameuse phrase où il dit « Si je jouais la chaconne de façon magnifique à la chapelle Sixtine, alors le monde serait changé. Si je pouvais la jouer vraiment comme je veux, alors le monde serait changé. » Et non seulement, je dis pas sûr, quoi. Bon, mais surtout, quand il disait quand je joue, j'aimerais bien que les gens oublient tout. Et moi, bêtement, et avec le culot de l'époque, mais que je revendique un peu maintenant encore, je disais « Non, moi, quand je joue, j'aimerais bien que tout le monde se souvienne de tout. » Et ça me reste, ça. Voilà, donc le bel souvenir exacerbé, c'est le bouquin.
Oui, j'en viens parfois à me demander, écrit Vladimir Jankélévitch, si le fait d'avoir une existence un tant soit peu musicienne, d'avoir consacré beaucoup de temps à un instrument, ne provoque pas une très légère ivresse qui à chaque instant nous accompagne et nous grise. Être souvent un peu plus exalté que de raison, être heureux sans cause, n'est-ce pas là cette douce ébriété que nous devons à la musique ? ébriété presque impalpable, impondérable, comme une vapeur qui monte dans le soleil et nous soulève avec elle et nous donne un cœur printanier. Car la musique est là, sur terre, elle existe à nos côtés, comme une amie, et la plénitude de son évidence donne le courage de vivre, d'écrire, de continuer. Sans cesse, je me dis, notre compagne la musique est encore là, malgré tout. Elle nous dispense ses suavités et son bonheur sonore qui naissent de la matière vibrante, corde, cuivre ou bronze. Elle est là, même si beaucoup ne consentent pas à l'entendre. La griserie musicale ressemblerait peut-être à une espérance. Pourvu qu'on ne se demande pas l'espérance de quoi, l'espérance en quoi. J'espère, c'est tout. Prenons, ajoute Jean Kelevitch, pour modèle cette fleur des steppes dont parle Liszt. Elle pousse dans le sable des racines si superficielles que le moindre vent l'emporte. On l'appelle la fiancée du vent. J'ai l'impression que cette espérance qui est en filigrane dans chaque page de votre livre, Ami Flammeur, est cachée dans le titre qui mérite commentaire, Apprendre à vivre sous l'eau.
Là, vous avez dit beaucoup de choses très importantes, je ne sais pas à quoi répondre en premier. Alors, d'abord, j'ai envie de dire un petit mot sur Menuhin qu'on vient d'entendre, et qui est lié complètement à cette merveilleuse phrase de Yankelevitch sur la musique. La beauté de cette chose-là, je sais même pas comment parler sans trembler, parce que la beauté de la musique, c'est quelque chose. Alors lui, il disait ineffable, c'est pas tout à fait mes mots. Mais vous avez entendu le son qu'il a, là? Je veux dire, c'est pas, c'est, on est bien au-delà de dire, tiens, il a un beau son, ou il joue bien, ou il joue juste. Enfin, c'est, voilà, c'est ce que j'adorais chez Menuhin, c'est ce que je recherche encore toujours quand je joue, c'est que le son parle. C'est pas, évidemment, faire de la musique, c'est pas seulement jouer les notes et les rythmes, ça, c'est rien. Comme je dis toujours à mes étudiants, si vous faites une erreur de style, si vous faites une erreur de conception par rapport à ce qu'a voulu, sans doute le compositeur y réfléchit sans cesse pour savoir ce qu'il a voulu, mais quand même. Mais c'est au moins aussi grave que de mettre un do à la place d'un ré ou de faire une croche à la place d'un double croche. C'est, tout est très grave. Enfin, je veux dire, c'est pas faire juste l'objectivité de la musique, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et lui, la leçon qu'il a, c'est à pleurer. Et en même temps, c'est toute sa souffrance. Il commence, là, c'est en 36, je crois.
C'est 36, et c'est le Kadish de Ravel.
C'est le Kadish de Ravel, donc bien sûr, la prière des morts. C'est avant-guerre, hein. C'est juste avant-guerre, et mais comme il disait dans ses mémoires, on sent déjà que ça va venir, quoi. On sent déjà qu'une catastrophe va arriver. Il le dit, ça, hein, à cette époque-là, dans son merveilleux livre de souvenirs qui s'appelle Le Voyage inachevé. Mais au-delà de ça, je voudrais simplement raconter, c'est peut-être anecdotique, mais c'est beau, c'est magnifique. Et c'est quand même un drôle de prénom, Yehudi. Ça veut dire juif, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme si quelqu'un s'appelait français ou africain. Enfin, donc c'est assez beau parce qu'ils sont arrivés donc de Russie. Hein. Sa maman était karaïte. Il y en a pas beaucoup des karaïtes. On va pas expliquer là parce que c'est un peu long. Et ils sont arrivés à San Francisco, enfin aux États-Unis, ils avaient pas un sou. Enfin, ils avaient pas encore d'enfants à ce moment-là, évidemment. Et ça commence à aller mieux parce que le papa reçoit un boulot de prof d'hébreu dans une école juive. Et bon, elle tombe enceinte, quoi. Ils s'étaient rencontrés en Palestine à l'époque. Et elle va pour visiter des appartements. Et puis elle arrive dans un endroit, elle se dit ça c'est bien, c'est un... entre le prix et la qualité, ça va. Et puis au moment de signer le bail, la propriétaire lui dit, écoutez madame, en plus ici vous serez très tranquille, parce que nous ne louons jamais à des juifs. Et donc elle s'énerve et tout ça, et elle rentre chez son mari, Moshe, qui s'appelait Moshe Menuhin, et elle lui dit, écoute Moshe, si c'est un garçon, on l'appellera Yehudi, comme ça les choses seront claires. Et effectivement les choses sont claires.
Les choses sont très claires. Et oui. Alors, c'est ici, c'est Jean Kelevitch dans la citation, et Jean Kelevitch est aussi une de vos rencontres importantes, Ami Flammeur.
Oui, très importante, de la toute fin de Jean Kelevitch, si je puis dire, enfin assez fin. D'abord, là, je vais pas faire l'idiot, mais d'abord, il avait une fille d'une beauté folle. Bon, voilà, ça c'est quand même une des raisons, mais bien sûr, pas seulement. Et en fait, j'ai rencontré surtout à la. Bon, d'abord, moi, j'ai rencontré de loin parce que j'allais jeune, quand j'étais encore étudiant au conservatoire, j'allais presque en cachette parce qu'il n'était pas question quand on était instrumentiste à l'époque de s'intéresser à la philosophie de la musique, à l'analyse de la musique, c'était trife, comme on dit, c'était vraiment pas bien. Donc, mais moi je faisais tout pas bien de toute façon. Bon, donc c'était bon. J'allais écouter Yankelevitch à la Sorbonne, qui parlait de Debussy, qui parlait de, et en même temps j'avais déjà, je crois, ou juste après connu Duras, qui était marié avec Anthelme, et Anthelme avait eu un petit dialogue, vous savez, sur l'oubli, le pardon, ou tout ça. Donc tout ça me frappait beaucoup. Et en même temps, après, je l'ai connu, et je me suis rendu compte, je le savais d'ouï dire, comme on dit. Mais là, je l'ai su d'ouï direct, c'est-à-dire qu'il jouait comme un dieu du piano, quand même. C'était officiellement un amateur, mais j'aimerais beaucoup que pas mal de professionnels jouent aussi bien du piano. Donc on s'est joué des sonates de Forêt, tout ça, chez lui. Et puis après, il y a eu la fameuse époque dure, douloureuse, parce qu'il en a beaucoup souffert, où on a été ensemble, enfin c'est lui qui avait créé ça, le comité, je sais plus exactement comment ça s'appelait, le groupe des intellectuels juifs de gauche contre la guerre au Liban, ou pour la paix au Liban, ou contre la guerre je crois, ou au moment de la première invasion israélienne au Liban, et c'était très dur, parce qu'en même temps il y avait des petites manifestations, on n'était pas très nombreux dans la rue, et lui qui avait été un homme tellement... tellement fort sur tous ses engagements, se faisait vraiment insulter. Et c'était drame pour lui. Il recevait des lettres d'insultes de plein de juifs aussi, bien sûr, essentiellement juifs. Et ça, je me compare absolument pas.
Et l'espérance, alors? Qu'il y a dans la musique, et je suis étonné aussi de ce Ravel faisant ce Kaddish, parce que pourquoi Ravel ferait un Kaddish?
Alors, car Ravel, c'est une histoire très jolie, parce que vous savez, comme sans doute, qu'il est évidemment, il était du Sud-Ouest, Saint-Jean-de-Luz et tout ça, et il a découvert petit à petit, parce qu'en fait c'était complètement par sa mère, il savait pas, qu'il était sans doute marane. Alors bon, je vais pas expliquer ici ce que c'est le maranisme, je pense que tous les auditeurs le savent.
On a fait de nombreuses émissions. Voilà.
Mais ça l'a troublé beaucoup, parce qu'en même temps c'était un vrai bon français par son père. Mais petit à petit, ça l'a de toute évidence, d'après les lettres, hein, moi évidemment j'ai pas connu Ravel, mais j'aurais adoré. Assez tard dans sa vie, il a dit, il faut quand même que je rentre dans une synagogue, pour voir. Et il a repéré, je crois, apparemment, d'après comme il le raconte, comme si c'était une synagogue la plus isolée possible, pour qu'on ne voit pas qu'il était rentré dans une synagogue. Mais il est rentré dans cette synagogue et il y avait Chazan en train de cantiler et un cantor quoi, pour lui. C'est-à-dire qu'il l'a simplement pris en dictée. Le cantor, le Chazan, qui cantilait, qui chantait, et il a rajouté la fameuse partie de piano qui est très légère en même temps. Alors c'est ça aussi qui est magnifique. Lui qui était pas consciemment juif, on va dire. Mais enfin, cet accompagnement tellement ténu, tellement par petites touches, un petit accord, une note par-ci par-là, qui moi me fait tellement penser aux petits commentaires des juifs au fond de la synagogue quand donc le rabbin fait son truc et puis qu'il faut waouh. Amen. Amen. Mais c'est ça ce qu'il fait au piano. C'est ça ce qu'il rajoute au piano dans cette mélodie sublime et qui est comme une espèce de prière. Alors là, pour le coup de prière, mais pas au sens d'espoir. Alors là, et vous dites, alors la musique, l'espoir. Moi, c'est que ça. Enfin, c'est que ça. Moi, vous savez, je crois que je l'exprime fort dans le bouquin. Je suis à la fois un homme extrêmement révolté, ça, mais révolté de naissance, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, sans doute la Shoah qui est arrivée sur moi comme ça, mais on en parlera, mais aussi sans doute des histoires dans la famille que je comprendrai jamais très très bien complètement, tout ça est lié, révolté et en même temps tellement plein d'espoir, très révolté, hein. Je m'énerve facilement, et je m'engage facilement et je vais loin, des fois trop loin d'ailleurs, sans doute, bon, tant pis, mais aussi l'espoir chaque fois, vous savez, vous connaissez la blague des deux psychanalystes qui se retrouvent le matin et il y en a qui dit à l'autre comment je vais ce matin. C'est un peu ça avec le violon. Quand on prend le violon tous les matins, parce que tous les matins on travaille, comme je dis toujours, j'ai pas la tête à ça, mais je fais quand même mes gammes tous les matins, parce qu'on peut pas le jouer bien sinon. Mais quand on prend le violon, première note, on se dit comment je vais. Et c'est le violon qui vous dit comment vous allez. Si ça sonne bien, c'est que ça va pas mal. Si ça sonne pas bien, c'est que ça va pas bien du tout. Donc il y a cet espoir permanent qui est aussi entretenu par pas la beauté, parce que ça m'énerve un peu, c'est beaucoup plus que la beauté la musique, par l'énormité de ce qu'on ressent. Vous savez, il y a des œuvres que j'entends depuis que je suis petit, enfin que j'ai entendu 2000 fois. Là par exemple, tout à l'heure, l'ode maçonnique de Mozart, j'ai entendu, j'adore cette œuvre. Au passage, je tiens à dire, si pour les gens s'ils le réécoutent, ce qui est extraordinaire à part la beauté de cette œuvre, c'est ce, vous avez peut-être pas repéré, il y a le contrebasson qui d'un coup, qui en même temps fait presque son de bande dessinée, qui est presque limite son grotesque, mais qui est tellement grave. C'est très rarement utilisé par les compositeurs. Et tout d'un coup, il y a une espèce de largeur qui s'installe, qui est au-delà du religieux, mais qui fait qu'on n'a pas la même chose que s'il n'y avait pas ça. Donc, cette beauté-là, c'est l'espoir. Alors, c'est le messianisme juif, bon, que moi je ressens comme ça. C'est l'attente qui compte, c'est pas l'arrivée.
Beethoven, concerto pour violon et orchestre, opus 61. Vous êtes au violon, Ami Flammeur. C'est un disque qui n'est pas encore sorti, donc c'est un grand privilège et merci. Et l'orchestre est dirigé par Jean-Jacques Kantorov. Alors Beethoven a une place particulière dans votre panthéon des musiciens. Il parle, dites-vous, les notes sont comme des lettres et la musique un récit qui raconte. La formule mérite commentaire. Puis j'aimerais à un certain moment, si on entend que le moment où le violon entre dans l'orchestre, à ce moment-là, on le fera ressortir de manière plus... Voilà.
Oui, Beethoven, c'est pour moi inouï de plus en plus. Déjà, on vient de l'entendre, donc ça commence par 4 coups de timbale. Simplement, ce qui est quand même inouï, personne n'a jamais fait ça, et surtout la répétition, la même note. Attendez, je suis embêté parce que là, il y a bientôt le violon va arriver.
Oui.
Mais en tout cas,
vous
simple
dites juste
fait de commencer
une
par
avant.
Répétition. Oui. Moi, je pense que c'est essentiel chez Beethoven. Il répète les notes comme personne ne l'a fait. Mais il répète pas comme on a dit le destin, tout ça, ça c'est des bêtises. Mais attendez, je continuerai tout à l'heure parce que le violon va arriver. Donc l'orchestre va se rétracter, se rétracte. Là, il va diminuer. Il diminue à rien. Et le violon revient à la réalité. On est première réalité, on répète, encore le sol, et hop, il s'en va. Il s'en va, on sait pas très bien où au début. Une espèce de... Voilà, c'est ça, bon, c'est, moi j'ai dit dans le livre, c'est comme presque comme le Tzimtzum dans la Kabbale. Et là, il va remonter, mais progressivement. L'orchestre qui nous vient, et donc au dialogue, ça y est, on est parti, le thème arrive. Voilà, mais tout ça, chacun a dit son mot. C'est ça que j'adore quand je dis concerto, c'est un dialogue. C'est que ce début-là, c'est comme si chacun avait dit son mot. Il y a l'orchestre qui a amené ses arguments, le violoniste qui amène ses arguments, mais du coup l'orchestre tait parce que qu'est-ce qu'il a à se parler tout seul comme ça. Et tout d'un coup, hop, quand même, on est ensemble et on va faire ce thème. Lila, lila, ta, lila. Bon, ça, c'est, enfin, je veux dire, alors bon, c'est ça l'interprétation. C'est ça l'interprétation. D'abord, il y a ces 4 coups de timbale. J'étais en train de dire tout à l'heure les histoires du destin sur la 5e Beethoven, ridicule. C'est pas du tout du destin. Beethoven, c'est un mec qui réfléchit toute la journée. C'est un des rares compositeurs qui a lu autant de philosophie, qui était quand même très marqué par ça, qui lisait du Kant, qui se demandait si Dieu existait, mais au point que quand même, à la fin de sa vie, moi, c'est une chose qui me touche encore chaque fois que j'y pense. Quand même, vous savez, ça, quand il est mort, il est d'abord tombé dans le coma, il s'est réveillé 2 secondes. Il a fait ça comme ça, il a montré le poing au ciel, genre, alors, oui ou non, mais j'arrive. Et c'est quand même extraordinaire. Mm-hmm. Alors bon, moi, ça c'est des anecdotes personnelles et idiotes peut-être, mais je me rappelle très bien que quand j'avais découvert cette histoire, j'étais en même temps, j'étais jeune, je venais de découvrir, j'aurais dû le découvrir avant, mais je venais de découvrir aussi la deuxième symphonie de Mahler, qui s'appelle Résurrection. Mais j'avais le fameux masque, vous savez, du mortuaire de Beethoven. Et je mets la Résurrection, la deuxième de Mahler, qui est tellement forte, tellement inouïe. Je l'ai mis évidemment le plus fort possible, parce que ça, c'est la musique qui s'écoute. Il faut gêner tous les voisins, toute la rue, sinon on l'écoute pas, quoi. Et, paf, c'est pas une bêtise, c'est vrai. Le masque de Beethoven tombe par terre, quoi, au moment du thème de la Résurrection. Bon, alors, je sais, c'est des bêtises, évidemment, mais quand même, à la maison, tout seul, là, bon, voilà. Et donc, Beethoven, c'est ça, quoi. C'est d'abord, c'est un type qui s'est engagé politiquement, ça, on le dit pas beaucoup. D'ailleurs, je prépare avec François Martouret, en ce moment, une pièce que je vais décrire et qu'on va monter, sur ça, beaucoup, sur l'écoute intérieure, sur qu'est-ce que c'est d'écrire quand on est sourd, mais aussi sur le fait que, oui, il était babouviste, hein, c'est-à-dire qu'il croyait en Babeuf, s'il avait pas été connu, il aurait été en prison plein de fois. Beethoven, ça on l'oublie beaucoup. Et c'est pas le destin, c'est je veux vous convaincre. Voilà. C'est comme quand je dis qu'il parle, tom, pom, 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 c'est juste attendez, asseyez-vous, je vais vous raconter un truc. C'est pas, je sais pas quoi. Et puis quand il répète la note incessamment, c'est mais vous voulez pas comprendre ce que je vous dis. Ta, 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 pa, 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 pa. C'est pas du tout le destin ou quoi. C'est, vous entendez ce que je vous raconte? Et d'ailleurs, le sourd. Vous savez, je sais pas si vous savez aussi, mais moi je l'ai mis beaucoup dans ma pièce, hein, parce que j'y tiens tellement. Quand il a commencé à sentir qu'il était vraiment sourd, il a eu ce qu'on appelle les carnets de conversation. C'est-à-dire qu'il avait pendu à son cou plein de papiers, et on lui écrivait les questions, on lui écrivait ce qu'on voulait dire, et lui il répondait, ça il pouvait bien sûr parler, mais il avait ça, alors les gens lui écrivaient des trucs, et puis il arrachait les feuilles, ça a été publié, et c'est assez magnifique. Enfin je veux dire, un sourd... On lui écrit des trucs et il répond. Mais sa musique, c'est aussi ça. On lui demande des trucs ou il se demande à lui-même des trucs et répond en s'énervant ou en est, au contraire en s'émouvant. Enfin, voilà, alors, c'est ça, Beethoven.
C'est très émouvant ce que vous racontez parce que ça me fait penser à quelqu'un d'autre qui est Kafka, mm-hmm. qui qui, à la fin de sa vie, ne pouvant plus parler, il est dans une clinique, il ne peut plus parler, il entend les questions et il écrit les réponses parce qu'il ne peut pas les dire. Et là aussi, ses réponses ont été publiées sous le titre de Paperolles. Et l'une de ces réponses, on ne saura jamais quelle était la question, c'est pour cela qu'on aime les libellules. Et d'accord, magnifique, j'en ai fait un titre de livre, ah, magnifique. Et en vous écoutant et en pensant à Kafka, je repense à un autre texte qu'il écrit, un court fragment, il dit « De mon père, j'ai seulement hérité une petite boîte à épices en argent ». Alors je ne sais pas si les violons s'héritent, je ne sais pas, mais je sais que c'est un objet important dans les familles juives, et vous en parlez avec une grande tendresse et une grande émotion. Dès votre enfance, la rencontre avec l'instrument fut un véritable choc existentiel, et les pages que vous consacrez au Stradivarius et au Guarnerius sont très belles et très profondes, et ce n'est pas sans rapport avec Beethoven, parce que je pense que votre violon... a été touché par Beethoven.
Ben oui, ça c'est très touchant, mais oui, mon violon qui est de 1720, donc qui est un Joseph Guarnerius, vous savez, il y a toujours, bon, il y a évidemment tout un tas d'immenses luthiers, mais un peu les deux plus légendaires, plus connus, qui sont Guarnerius et Stradivarius. Et en même temps, c'est toujours une belle histoire, parce qu'ils étaient dans la même rue, dans la même ville à Crémone, mais ils avaient une logique totalement différente de son, de construction. Stradivarius était un homme parfait, entre guillemets, qui faisait des violons magnifiquement parfaits, avec jamais un nœud dans le bois, jamais un petit défaut dans le... qui choisissait ses fournitures avec une exacte... et qui travaillait à heure fixe, commençait le matin à telle heure, terminait le soir, etc. Guarnerius était un excité qui prenait même des fois des bois qui paraissaient pas superbes, il en faisait un violon absolument sublime qui est encore joué maintenant, qui se battait des fois en duel, qui draguait tout le monde dans la rue, enfin, etc. etc. Mais en même temps, nous on dit toujours dans le milieu, on dit toujours c'est Tolstoï et Dostoïevski, quoi. Enfin, et on peut pas aimer les deux. Quelque part, on peut pas aimer les deux. Alors, Stradivarius, c'est soyeux, incroyablement soyeux, c'est une beauté inouïe. Et Guarnerius, c'est aussi magnifique, bien sûr, mais c'est plus tendu, c'est plus agressif, c'est des, voilà. Et on le voit même, visuellement, on voit bien que les veines du bois, on sent bien que c'est pas serein, quoi. C'est sublime, mais c'est pas serein. Et donc, moi, oui, j'étais attiré par ça, et il s'avère que quand j'ai cherché, d'abord, comme tout le monde, j'ai fait là une erreur, quand j'ai choisi mon premier violon. C'est-à-dire que comme tous les jeunes, on croit qu'on va trouver un son sublime. Alors, il était effectivement sublime, ce premier violon que j'ai acheté, avec mon argent, parce que j'ai voulu faire plein de concerts pour m'acheter un beau violon, quoi, voilà. Et il était magnifique, mais on l'entendait pas. Voilà. Mais ça, on s'en rend pas compte au début, parce que le propre des magnifiques violons, des violons italiens, particulièrement de Crémone et de cette époque-là, c'est que ils projettent beaucoup, mais on les entend pas de près. Donc, quand on est jeune, on comprend pas encore ça et on se trompe. Lui, il était vraiment faible. Il était magnifique de timbre, mais il était faible. Et après, j'ai vu ça, j'étais couvert par les orchestres, j'engueulais tous les chefs, mais c'était quand même de ma faute. Mon violon ne sonnait pas beaucoup. Très beau, mais pas beaucoup. Et donc, j'ai cherché un violon. Et j'y avais Vatlo, et on me proposait des choses et tout ça. Et puis, je raconte pas l'anecdote entière, mais c'est trop long. Mais, tout d'un coup, un jour, il me dit, je crois que c'est ça. Et puis, je vois un violon magnifique. C'était effectivement lui que je trouve en plus d'une beauté inouïe. Mais qui sonnait pas génialement. Et je sens très vite qu'il était pas bien réglé. Le réglage, c'est ce qu'on appelle, c'est la façon, l'endroit, mais au quart de millimètre près où on pose le chevalet, où on pose l'âme et tout ça, qui peut faire changer complètement le son d'un violon. Et là, il avait pas bien bossé, Vatlo. Excusez-moi, il est mort, mais je l'adorais. Mais ce jour-là, il avait pas bien bossé. Mais moi, j'ai senti que ce violon allait sonner génialement. Je suis allé voir un collègue à lui sans lui dire. On a réglé le violon ensemble. Et il s'est réveillé. Je suis retourné chez Vatlo qui m'a dit, dis donc, j'ai bien travaillé sur ce violon, il n'avait rien fait. Mais t'as vu, il sonne magnifiquement. Je dis, oui, il sonne magnifiquement. Et je l'ai acheté. Et là, je découvre petit à petit que d'une part, il est 1720. Donc, 1720, c'est l'année exacte de l'écriture de la Chaconne de Bach. Et qui est quand même une œuvre pour moi, enfin, déjà à l'époque, qui était une œuvre majeure, que d'ailleurs, j'enregistre à la rentrée. Enfin, tous les Bachs, je jouais souvent. Et, il avait appartenu au plus grand ami, enfin, un des plus grands amis de Beethoven, Schuppanzigh, le fondateur du premier quatuor constitué de l'histoire du quatuor à cordes, le grand ami, et qui a été aussi le créateur, comme chef d'orchestre de la 9e de Beethoven. C'est pas rien. Donc, tous les derniers quatuors de Beethoven ont été créés sur ce violon-là. Et, comme je m'amuse toujours à dire, il l'a pas entendu parce qu'il était déjà sourd, mais il l'a vu beaucoup, et je pense que quelque part, il entendait. Mais enfin, bon, voilà. C'est assez fort, quand même.
Merci Ami Flammeur pour cette magnifique conversation passionnante. C'est vraiment un très grand plaisir de vous écouter, et je vous propose que nous continuions à échanger autour de la musique. du violon et de votre parcours la semaine prochaine. En attendant, je rappelle le titre de votre très beau livre, Apprendre à vivre sous l'eau, mémoire d'un violon. Au passage, mémoire de violon. Et au passage, je vois qu'on n'a pas répondu à la question quel est le sens du titre du livre. Ça va rester un secret. Chez Christian Bourgois, 236 pages qui se dévorent comme un roman, avec des personnages attachants, souvent drôles et aussi très émouvants. Une grande leçon de vie et de musique. Merci encore, Ami Flammeur.
Merci à vous.
C'était Talmudic, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Pierre Monteil. À la réalisation, comme d'habitude, Dany Journeau, Coltouve, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.